Gloire à Dieu, nous allons lire dans Hébreux au premier chapitre, du premier verset jusqu'au verset 9. Hébreux 1, 1 à 9, nous allons parler du Fils. Le Fils, c'est ça notre thème de ce matin, le Fils de Dieu, puisque Dieu est compris de plusieurs manières dans plusieurs endroits. Il a voulu simplifier les choses pour tout humain sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lui-même à travers son Fils. Voilà, c'est comme ça que Dieu a voulu simplifier, faciliter le salut de tout homme sur terre en envoyant son propre Fils, pas juste des collaborateurs, ni même un ange. Il a envoyé son propre Fils. Il est venu lui-même. C'est ça notre thème de ce matin, le Fils. Nous lisons Hébreux 1, 1 à 9, qui nous explique ensuite. Nous lirons Matthieu 21, qui nous parle du même sujet. Hébreux 1, 1 à 9.
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. »
Amen. Voilà le résumé de la foi chrétienne, le résumé de la révélation divine. C'est ça le résumé, Hébreux 1, 1 à 9. Il est question du Fils de Dieu, il est question du Fils. Alors, notre frère Paul, il nous dit que Dieu a parlé de plusieurs manières en utilisant des humains et en utilisant parfois des anges. Mais dans ces derniers temps, donc les derniers temps, c'est quand Jésus vient. Dans ces derniers temps, il est venu lui-même par son Fils. Donc, il a envoyé son propre Fils pour rendre les choses hyper claires. Et le frère Paul explique que le Fils, il est au-dessus de tout humain. Donc, c'est le dernier verset qu'on vient de lire. « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Donc, au-dessus de tous les autres humains, au-dessus de tous les autres prophètes, le Fils, il est au-dessus de tout ça. Le même Paul explique que, au verset 6, et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Il dit au verset 5, car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, verset 4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc dans cette partie, il fait la démonstration que le Fils est supérieur à tout prophète, il est supérieur à tout humain, il est supérieur à tout ange. C'est ça la démonstration. Il dit, autrefois, Dieu s'est révélé, mais sa révélation était limitée parce qu'il a utilisé des humains qu'on appelle prophètes et il s'est révélé à un seul peuple, le peuple d'Israël. Peut-être qu'il s'est révélé d'une manière subreptice, d'une manière light aux autres peuples, à travers la création, à travers des visions aussi. Mais la révélation nette de l'époque, c'était à travers un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, à travers des prophètes. Il a utilisé des prophètes. Le frère dit, mais maintenant, dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, Dieu a envoyé son propre fils pour que les choses soient claires. Afin que quand tu le regardes, il dit, je préfère recommencer la lecture. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. » Dieu nous explique que, le frère Paul nous explique que c'est le Fils qui a créé le monde. Donc là, c'est le sommet de la révélation. Il n'envoie pas juste une bouche parler. Il envoie son propre Fils qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Nous continuons. Il dit ceci. Il nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, nous nous arrêtons là, étant le reflet de sa gloire, c'est-à-dire l'image totale de Dieu. Un jour, un des disciples de Jésus a dit à Jésus, est-ce que tu pourrais nous montrer le Père et ça nous suffira? Jésus a dit, mais Philippe, vous êtes depuis longtemps avec moi et vous me demandez de vous montrer le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, je suis l'image totale de Dieu, c'est moi, l'image totale. Vous voyez le niveau de la révélation. Avant, c'était des prophètes et des humains qui étaient saisis, ou parfois des anges. Maintenant, le frère dit, Dieu a envoyé son propre Fils, qui est son image totale, de sorte que la révélation est totale et précise, parce que c'est l'image de Dieu lui-même, puisque tous les humains sur terre, d'une certaine manière, cherchent la divinité, cherchent Dieu. Avant, c'était flou pour certains, un peu clair pour d'autres, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, le frère dit, c'est clair pour toute l'humanité, puisqu'il envoie son Fils qui est son image parfaite. Voilà. Quelqu'un ne peut pas dire, vous savez, cette prédication est aussi un avertissement. C'est-à-dire que quand tu as fait face au Fils, tu n'as plus d'excuses, parce que tu as vu Dieu lui-même. Tu n'as plus d'excuses. Attention d'écouter ça comme de l'instruction philosophique. Ce n'est pas de l'instruction philosophique, c'est la parole de Dieu. Il dit aussi que vous pourriez peut-être estimer qu'un ange est plus grand que le Fils. Vous savez, parce que quand un ange paraît, il vient avec une lumière brillante, il vient avec des pouvoirs extraordinaires. On peut le voir mesurant 5 mètres, on peut le voir étincelant. Il dit, mais attention, il est même au-dessus des anges, parce que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a tout fait. Il dit au verset 4, on va revenir sur le verset 3, devenu d'autant supérieur, on lit d'abord le 4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il dit, il est même plus grand que les anges. Parce que, par exemple, les branhamistes, ils disent que c'est un ange qui parlait à Branham, qui lui donnait les révélations. Donc, du coup, ça donne du poids aux révélations de Branham. Mais ce que nous lisons ici, c'est quoi? C'est que le Fils est supérieur aux anges. C'est-à-dire que si tu as la révélation du Fils, c'est supérieur à une révélation qu'un ange te donnerait. Mohamed dit que c'est un ange qui lui a parlé, que lui prétend être Gabriel. Mais nous ne pensons pas que c'est le même Gabriel de la Bible, puisque le Gabriel de la Bible a dit des messages qui étaient relatifs à Jésus-Christ. Mais peu importe, c'est un ange. Mais là, nous lisons quoi? Le Fils, il est au-dessus des anges. Donc la révélation du Fils, c'est celle qui est vraie. Joseph Smith, de Mormon, c'est aussi un ange encore qui lui a parlé pour lui dire n'importe quoi. Mais là, nous lisons quoi? Nous lisons que le Fils est supérieur aux anges. Donc, au cas où un jour, tu avais une vision spéciale d'un ange de 15 mètres qui te dirait quelque chose et que ça t'impressionnerait, sache que c'est rien par rapport à la révélation du Fils. Tu te trompes. Le Fils est au-dessus. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Galates 1 que même si un ange, hein, Galates 1, 8, même si un ange, même si nous-mêmes, l'apôtre Paul dit, même si nous-mêmes, même si un ange, venez vous dire des choses différentes de celles que nous avons annoncées venant du Fils, ne l'écoutez pas, c'est du mensonge. Qu'il soit maudit, ce n'est pas un vrai ange. Voilà ce que nous venons de lire. Que Dieu a voulu être clair avec tout le monde, il a envoyé maintenant le Fils lui-même. Le Fils, nous venons de lire qu'il est celui qui a tout créé. Donc, il te connaît, il me connaît. Donc, ce n'est pas un prophète, un serviteur de Dieu qu'on pourrait envoyer à Madagascar qui ne connaît pas les malgaches et qui va les connaître en y allant. Le Fils, quand il vient, il sait qui tu es, il sait qui je suis, puisqu'il nous connaît, il nous a créés. C'est ça la différence. Donc, quand il envoie le Fils, c'est pour tout clôturer. Un jour, Jésus était à Jéricho, une ville où il n'était pas allé, et il y a un homme qui était sur un arbre, il s'appelait Zachée. Jésus passait par là, il a appelé Zachée de son prénom. Comment il a su ça? Parce que c'est lui qui a créé Zachée. Vous voyez, avec le Fils, vous n'avez pas affaire à un messager simple. Vous avez affaire à votre Créateur. C'est ce que nous sommes en train de lire. Ce que nous lisons est capital. C'est capital. Il faut serrer ça dans le cœur. Il dit ceci, qu'il a créé le monde et qu'il est l'image parfaite de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'il a un message, mais il est lui-même Dieu. C'est ça. Il est lui-même Dieu. Il ne t'apporte pas seulement le message de Dieu, mais il est lui-même. Alors, que demander de plus ? Maintenant, nous revenons au verset 3 à un élément très, très important. Il dit, « Et qui étant le reflet de sa gloire, donc l'image de Dieu, et l'empreinte de sa personne, il est comme Dieu, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Il a fait la purification du péché, parce que le problème qu'il y a sur terre, ce n'est pas un problème de végétation, ni de climat, ni de quoi que ce soit. C'est un problème du mal. Le problème qu'il y a sur terre, c'est un problème du mal. C'est le mal qui vient tout gâcher. Le mal s'exprime à travers la méchanceté des cœurs, à travers les meurtres, les violences, les avortements, les adultères, les mensonges, les guerres. Et ça détruit tout. Et ce mal a pollué même la création au point qu'il y a des animaux sauvages. Avant, il n'y avait pas d'animaux sauvages. Ce mal détruit tout. Le vrai problème, c'est le mal. C'est le mal qui crée la jalousie. Qui enlève le plaisir de vivre. La jalousie t'enlève le goût de vie. C'est le mal qui crée la haine. toutes ces choses-là qui détruisent la terre viennent du mal. Et comme nous l'avions dit précédemment, non seulement le mal empeste notre vie, mais il va nous amener à la mort. Nous mourons à cause du mal. Nous avons un principe négatif qui nous amène à la mort, c'est le mal. Et la mort, ce n'est pas gentil, ce n'est pas beau. Ça fait du mal. Ça fait disparaître un être qu'on aimait. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas bon. Et si ça s'arrêtait encore là, ça ne s'arrête pas là. Après la mort, il y a un jugement. Et donc, ceux qui n'auront pas reçu Dieu iront dans le feu éternel. C'est ça le mal. Donc, le vrai problème, c'est celui-là. Le vrai problème, ce n'est pas un problème de nourriture, ce n'est pas un problème de richesse, c'est un problème du mal. Et il nous est dit que le Fils a réglé ce problème, il a fait la purification des péchés. C'est-à-dire qu'il est parti à la croix en portant tous nos péchés, de sorte que quiconque croit en lui soit lavé de ce péché, soit pardonné et commence une vie nouvelle. Le Fils a réglé ce problème. Mais quel prophète a réglé le problème du péché? Il n'y en a pas. Quel ange a réglé le problème du péché? Il n'y en a pas. Quelle église a réglé le problème du péché? Il n'y en a pas. C'est le Fils qui a fait tout ça. Bien-aimé, toute ta vie retient le Fils. C'est le Fils. Dieu a tout donné au Fils. Il a dit, il l'a mis héritier de toutes choses. Ce n'est pas un pasteur, c'est le Fils qu'il faut serrer. Ce n'est pas un système religieux. Il y a des gens qui disent, je suis catholique, je mourrai catholique, mais tu vas aller en enfer. Parce que c'est le Fils qui sauve. Ce n'est pas un système religieux qui sauve. Je suis dans la religion que mes parents ont laissée, tu iras en enfer. Peut-être que ton père, à l'hôpital, lui, il s'est converti au Fils, mais toi, tu l'as suivi bêtement, eh bien, tu vas te retrouver en enfer alors que lui, il est au paradis. Parce qu'à la fin de sa vie, sans que vous le sachiez, lui, il s'est converti au Fils. Bien-aimé, c'est le Fils qui a fait la purification des péchés. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église, c'est le Fils. C'est ce que le frère explique. Cette partie de la Bible, c'est vraiment capital. Hébreux 1, c'est tout le chapitre, mais comme nous ne voulons pas faire des digressions, nous préférons rester concentrés sur cette partie de 1 à 9. Voilà, c'est le Fils qui a fait la purification des péchés, parce que c'est ça le vrai problème de l'être humain. Ton problème, c'est ça. Ton problème, ce n'est pas l'argent, parce qu'il y a des milliardaires qui meurent. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le mal qui entraîne cette mort-là. Justement, tu es milliardaire, tu meurs. Tu es milliardaire, tu as 85 ans. Tu vas faire quoi avec tes milliards à 85 ans? Tu vas faire quoi? Donc, le vrai problème, ce n'est pas les milliards. Le problème, c'est la vieillesse et la mort. Et il est dit que le Fils a réglé ce problème à la croix. Il a pris nos péchés. C'est lui qui a réglé. Ce n'est pas Shiva, ce n'est pas Bouddha. Tous ces gens-là n'ont rien réglé du tout. Celui qui a réglé le problème du péché, c'est le Fils. C'est ce que nous venons de lire. Au-dessus des anges. Et à tel point que les anges l'adorent. Voilà ce qui est écrit. Et au verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges adorent le Fils. Qu'est-ce que Dieu dit du Fils au verset 8? Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc Dieu appelle le Fils Dieu, ton trône, ô Dieu. Ça se trouve dans les psaumes. Dieu lui-même appelle le Fils Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, là quand il vient en homme, il est oint d'une huile de joie au-dessus des autres. Il a quelque chose de plus que les autres. Dans Jean 3, 34, c'est dit que l'Esprit lui a été donné sans mesure. Bien-aimé, même si tu vas un jour rencontrer des gens qui font des choses extraordinaires, même en utilisant le nom de Jésus, attention, personne n'est au-dessus du Fils. Personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un va drainer des millions de personnes ou va faire des miracles extraordinaires qu'il est au-dessus du Fils. C'est faux. Le Fils est au-dessus de tout puisque c'est lui qui a créé. Et même en venant en tant qu'homme, Dieu lui a mis l'esprit sans mesure, alors que tous les autres ont l'esprit avec mesure. Pas lui. Lui, il avait l'esprit sans mesure. Jésus, un jour, il a dit aux gens, attention, le jugement sera terrible pour ceux qui m'ont connu et qui m'ont rejeté. Car, quand Salomon était sur terre, vous savez, Salomon a eu 1000 femmes, hein, mais il avait quand même reçu des dons de Dieu. Les dons qu'il a eus, malgré son imperfection, ont fait qu'il y a la reine de Séba qui a fait des centaines de kilomètres avec tout un cortège pour venir écouter la sagesse de Salomon. Jésus dit, mais ici, en parlant de lui-même, il y a plus que Salomon. Donc si quelqu'un fait des centaines de kilomètres pour écouter Salomon, alors que moi je suis plus que Salomon, ceux qui me négligent, leur sort sera très grave. Voilà ce que Jésus a voulu dire aux gens. Il dit, les gens ont fait des efforts pour écouter certains prophètes de l'Ancien Testament, notamment Jonas. Il dit, moi, je suis plus que Jonas. En bon entendeur, comme on dit en français, salut. Ça, c'est le Fils qui a dit, je suis plus que Jonas, je suis plus que Moïse, je suis plus que Salomon. Si ces gens-là, en leur temps, ont eu un grand égard de la part des humains, à combien plus forte raison vous devriez vous intéresser à moi, le Fils, qui les avait envoyés autrefois. Nous passons à l'évangile de Matthieu, chapitre 21, 33 à 45. Matthieu 21, 33 à 45. Vous savez, dans la plupart des religions, même dans les sciences occultes, ils vous diront, oui, Jésus était un grand homme. Il était, chez les Rosicruciens, on dit qu'il était quoi? Un maître, voilà. Et dans l'islam, on te dira que c'était un grand prophète. Mais après, on te dira, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas non plus le Fils de Dieu. Alors, vous ne voyez pas la contradiction là? Quand quelqu'un dit de vous que vous êtes honnête, que vous êtes de Dieu, et qu'ensuite il dit que vous mentez, qui se contredit? Parce que qui a dit qu'il était fils de Dieu? Jésus lui-même. Mais comment vous pouvez dire que c'était un grand homme, c'était un grand prophète, après vous contredisez ce qu'il a dit? C'est que vous-même, vous avez un problème. Parce que c'est vous, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la Rose-Croix, que ce soit dans la franc-maçonnerie, partout, renseignez-vous, ils ont une autre opinion de qui? De Jésus. Et c'est logique. Vous savez pour quelle raison tout le monde a une autre opinion de Jésus? À cause de Jean 8, 46. Il n'a jamais péché. Donc c'est difficile, c'est impossible de trouver. Faites l'enquête, le sondage le plus grand, posez la question à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Jésus a fait de mal, même à ses ennemis? Faites l'enquête, allez chez le musulman qui déteste le christianisme, qui est prêt à nous tuer, nous tous. Posez-lui la question. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que Jésus a fait de mal? Il ne sortira rien du tout. Mais maintenant, puisqu'il n'a jamais fait de mal. D'ailleurs, son juge l'avait dit, Pilate. Mais vous voulez que je le crucifie? Pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Bon. Puisqu'il n'a rien fait de mal, donc ce qu'il dit est vrai, qu'il est venu du ciel. C'est lui qui le dit. Moi, je suis venu du ciel. Je parle des choses du ciel. Il appelle Dieu son Père. Dans Jean 10, je crois, au verset 18 ou 36, il dit qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Mais vous ne pouvez pas dire, c'est un grand monsieur dans le bouddhisme, c'est un grand monsieur dans l'islam, c'est un grand monsieur, vrai prophète, grand prophète. Et puis, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a dit. Ah, là, vous contredisez, il faut choisir. Les êtres humains auront des problèmes à la fin du monde. Tu ne peux pas dire que tu avais affaire au Fils de Dieu et puis, quand on te pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait de lui? Mais j'ai passé mon chemin. On te dira, mais tu es fou. Si tu avais rencontré un diamant de 500 grammes, est-ce que tu aurais passé ton chemin? Oh non! Ah donc, le diamant est plus important que le Fils. Voilà, c'est le jour du jugement que les gens se préparent à ce genre de questions. Parce qu'on te posera, est-ce que tu avais connu le Fils? Les gens diront, oui, je l'ai connu. J'allais même à l'église. Mais qu'as-tu fait de lui? C'était la religion de mes parents. Moi, je suivais comme ça, j'ai vécu ma vie comme ça. Ah bon? Et qu'as-tu fait de ton salaire? Ah ben, je l'ai utilisé pour acheter une maison, pour faire... Et donc, tu t'es intéressé à ton salaire, tu as négligé le Fils. Mais aujourd'hui, qui va te sauver maintenant? Donc, tu vas rester à la porte, donc en discussion avec l'ange. Tu te dis, mais oui, mais là, tu vas entrer comment? Ah oui, mais je ne savais pas. Non, si tu viens de dire que tu savais que c'était le... Tu l'as rencontré, tu as eu l'occasion de connaître le Fils. Ah oui, mais... Et ça sera des ah oui, mais... On te dira, désolé, mon vieux. Vous ne pouvez pas entrer. Vous n'avez pas le visa du Fils. C'est le Fils qui donne l'autorisation pour entrer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oui, mais le pasteur, il m'aimait bien. Mais oui, mais désolé, ce n'est pas lui qui a l'autorité ici. C'est le Fils. La grande question, c'est la question de Pilate. Que feras-tu de Jésus? Que ferai-je de Jésus? Qu'on appelle le Messie. C'est Pilate qui a posé la question. C'est resté comme ça. Vous voulez que je libère qui? Barabbas. Pilate dit, mais je fais quoi du Fils? Que vous appelez le Fils vous-même, vous appelez le Messie. Et ils ont dit, crucifie-le. Ah, c'est ce que nous allons lire dans Matthieu 21. Ils ont compris que c'était le Fils, mais ils ont dit non. Il va prendre notre place, qu'on l'élimine. Matthieu 21, 33, 45.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. et il affermera la vigne à d'autres, pardon, à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait.
Voilà. Ils comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alors, commençons par les derniers versets. Verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Les gens négligent, les gens qui bâtissent les religions, qui bâtissent les églises, qui bâtissent les villes, ils vont négliger une pierre, cette pierre qui s'appelle Jésus. Mais un jour, ils se rendront compte que c'était la pierre principale qu'ils ont rejetée. Si tu veux bâtir quelque chose de solide, utilise Jésus comme pierre principale. Ce n'est pas un système ni une doctrine qu'il faut utiliser. C'est Jésus comme pierre principale. Conseil gratuit. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit des choses et il semble réussir dans ces choses-là qu'il faut suivre. Il faut suivre la personne qui te présente Jésus comme pierre principale. Tout vient de lui, les miracles viennent de lui. Ça ne vient pas d'un système, ça vient de Jésus-Christ. Que personne ne vous trompe, c'est le Fils. Comme nous allons lire, hein, il va dire, j'ai toute autorité. Mais puisqu'il a toute autorité, toi tu vas aller où? C'est lui qui a toute autorité. Il dit, mais ceux qui bâtissent avec moi comme pierre principale, ils vont réussir. Mais ceux qui vont négliger, voilà ce qui va leur arriver. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Il dit, ah, vous qui négligez, vous allez voir que d'autres vont saisir Jésus. Ça va devenir leur gloire. Il va devenir leur gloire. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui qui, sur qui elle tombera sera écrasé. Donc il y a trois possibilités avec la pierre. Soit tu l'utilises comme pierre angulaire, ta vie est assurée. La gloire de Dieu est assurée. C'est assuré dans ta vie. Soit tu négliges et tu la trouveras sur ton chemin. C'est ce qui est écrit au verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Au fait, dans ton chemin, tu tomberas sur lui, sur ton chemin, puisque tu ne l'as pas accepté. Eh bien, tu te casseras sur cette pierre, sur ton chemin. Et la dernière possibilité, c'est le jugement dernier. Un jour, cette pierre. C'est-à-dire, la deuxième possibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en négligeant Jésus, tu te casseras les dents. Donc tu te briseras sur cette pierre-là. Il t'arrêtera. Il t'arrêtera un jour. N'importe qui, un jour Jésus l'arrête. Maintenant, la dernière possibilité, c'est le jugement dernier. Eh bien, cette pierre-là tombera sur les gens. Voilà, il les écrasera. Sur les gens qui l'auront rejeté totalement. Parce qu'on peut s'y briser et être sauvé quand même plus tard. Mais la dernière possibilité, c'est la fin. Il s'écrasera, elle s'écrasera sur tous ceux qui l'auraient rejeté totalement. Voilà ce qui est dit dans les derniers versets. Mais qu'est-ce qui est dit dans le premier verset? C'est dit ceci, qu'il y a un homme, un riche, qui a laissé ses affaires à des collaborateurs. Lui, il est parti au loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens, entre guillemets, des prophètes, pour aller s'enquérir du travail, comment ça se fait. C'est ça les prophètes. Dieu les a envoyés sur terre pour dire aux gens, mais est-ce que, pour dire surtout aux bergers, hein, surtout aux bergers qui dirigent le monde, vous qui dirigez le monde, est-ce que vous avez pensé que c'est Dieu qui vous a donné cette place-là? Vous les présidents, les pasteurs, les prêtres, tout ce que vous voulez, vous là qui dirigez les parents, qui dirigez le monde, est-ce que vous souvenez que ce monde a été créé par Dieu? Est-ce que vous y pensez? Il est écrit qu'ils ont tué plusieurs séries de serviteurs de Dieu. Ils les ont tués, ils ont tué les prophètes. Jésus va en parler dans un autre passage. Il dit, Dieu a envoyé les prophètes, vous les avez tués. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, les hommes que j'ai envoyés, c'est vrai, c'était mes amis, mais bon, ils n'étaient pas parfaits. On pouvait leur trouver quelque chose, et puis prendre ces choses-là comme excuse pour les tuer. Je vais envoyer mon fils. Quand ils vont voir mon fils, ils ne verront aucune faute. Ils verront mon image parfaite. Quand ils vont le voir, ils vont me reconnaître moi-même. Donc ça, c'est comme si c'est moi-même qui revenais. Là, les choses seront remises en ordre. C'est ça Matthieu 21 qu'on vient de lire. Maintenant, quand il envoie le fils, les gens qui dirigeaient, les gens qui possédaient les choses, quand ils voient le fils, ils disent, mais c'est le vrai propriétaire qui est venu. Mais si on pouvait l'éliminer, comme ça, il n'y aura plus personne pour venir nous embêter. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont vu le fils, ils l'ont amené à la croix. Ils se sont dit, comme ça, il n'y aura plus personne pour nous embêter. Nous prenons possession de ce que Dieu nous a laissé sur terre. Eh bien, c'est écrit, quand le jour du jugement, Dieu frappera toutes ces personnes. Si le fils est mort, nous connaissons l'explication. C'est dans Hébreux 1, nous avons lu ça. C'était pour faire la purification des péchés. Il n'est pas mort parce que ces gens-là étaient plus forts que lui. Il était venu pour faire la purification des péchés. Mais les gens qui l'ont crucifié, ce sont tous ceux-là qui résistent au fils, qui ont pris les choses de Dieu. Les imams, les prêtres, les présidents, les parents, il y a des gens qui ont pris en otage la création de Dieu, les humains de Dieu. Et Dieu va leur demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait du Fils? Je vous ai envoyé le Fils pour vous sauver. Qu'est-ce que vous avez fait? Toi qui as pris en otage l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu as pris en otage le corps que Dieu t'a donné, c'est devenu ton corps pour en faire ce que tu veux. Dieu te dira, mais je t'ai envoyé pourtant le Fils pour vous demander des comptes, pour vous demander de vous réaligner. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait du Fils? Pourquoi tu ne l'as pas saisi pour être sauvé? Pourquoi tu ne l'as pas saisi? Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah mais non, on va l'éliminer, comme ça personne ne va plus nous embêter. Alors ils trouvent des excuses en disant, ben il n'est pas fils de Dieu. Ah bon, il n'est pas fils de Dieu? Mais est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un qui est né sans père? Il est né sans père. Même dans l'islam, c'est reconnu qu'il est né sans père. Il n'est pas fils de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais il y a le pape. Mais nous avons vu comment le pape a eu la pneumonie. Toi, au moins, tu étais dans ton champ en train de travailler, tu étais dans ton bureau en train de travailler pendant que lui, il était hospitalisé. C'est ça que tu veux suivre comme fils, comme Messie? Les gens diront, ah mais c'est la religion des Blancs. Ah bon? Tu ne t'es pas renseigné sur le fait que les Romains ont persécuté les chrétiens au début? Ils ont persécuté le nom de Jésus à fond? Est-ce que tu as lu le verset Jean 3, 16, le verset principal de la Bible? Il dit quoi ce verset? Dieu a tant aimé les blancs. Non. Ce verset dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a aimé tous les hommes. Citez-moi une seule religion qui est plus universelle que Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Regardez la religion des Indiens. Ça va vous parler de l'histoire de l'Inde, de l'Inde, de l'Inde, de l'Inde. Regardez la religion islamique. On ne prie qu'en arabe. Regardez la religion des Juifs. Ce n'est que pour les Juifs. Ils évangélisent même pas. Ils considèrent que vous, vous êtes des sauvages spirituels. Le peuple de Dieu, c'est eux. Ils restent entre eux. Revenons chez nos amis ancêtres, avec leurs ancêtres africains. Mais quand ils prient les ancêtres, c'est leurs propres ancêtres. Est-ce que c'est les ancêtres des Indiens? Est-ce que c'est les ancêtres des Chinois? Donc qui est tribaliste? Ce sont ces gens-là. Quand ils disent que leurs ancêtres, c'est eux qu'il faut prier. Bon, maintenant, les Chinois vont prier qui? Puisqu'ils ne connaissent pas vos ancêtres. C'est vous qui créez la division entre les humains. Jésus-Christ unit tout le monde. Il dit, Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, et qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui, indien, chinois, français, suédois, esquimau, n'importe qui croit en Jésus-Christ, n'importe qui, il a la vie éternelle. Amen. Vous savez, il y a un missionnaire qui devait, il sentait dans son cœur qu'il fallait qu'il aille dans une tribu éthiopienne, mais qui était une tribu qui faisait peur à tout le monde parce que c'était des guerriers qui n'acceptaient pas qu'on les approche. Tous ceux qui les avaient approchés avaient été tués. Mais l'un des ancêtres de ces gens-là, avant de mourir, il avait reçu une révélation. Il leur avait dit, un jour, vous verrez des signes dans le ciel. Et puis, un cheval qui ne mange pas de l'herbe viendra à vous avec un monsieur. Il faudrait écouter ce monsieur-là. Il vous apportera le livre du Très-Haut. Vous voyez, une tribu qui était sans contact avec l'humanité. Vous approchez, il vous tue. Mais, pour vous montrer que Dieu est le Dieu, est le Dieu de tous les hommes, ce n'est pas le Dieu des ancêtres africains, ce n'est pas le machin de Shiva, des trucs bizarres hindous, ce n'est pas les dieux chinois. Comment ça veut dire qu'un dragon peut être un dieu? Voilà, c'est ça en Chine. Voilà, c'est des trucs bizarres. Non, Dieu veut sauver tous les hommes. Cette tribu éthiopienne, belliqueuse, avait quand même reçu cette révélation. Un jour, il y aura un monsieur, quand vous verrez des signes dans le ciel, il y aura un monsieur qui viendra avec un cheval qui ne mange pas de l'herbe. Il vous amènera le livre du Très-Haut. Et à un moment donné, l'armée éthiopienne a commencé des manœuvres. Vous savez, les mirages, les avions à réaction laissent des traces au ciel. Et donc, quand ces avions-là passaient, ils laissaient des traces au ciel. Et ces tribus-là, on se sont dit, mais il y a des signes dans le ciel. Ils se sont rappelés la vision de leur ancêtre. Et ce monsieur-là, pressé par Dieu, vous savez, les vrais enfants de Dieu, ça sera la deuxième phase, ils se comportent aussi comme des fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Ils disent que toute la terre, toute la terre est à nous. Ils veulent laisser aucun territoire sans la seigneurie de Jésus-Christ. Ce monsieur a fini par se décider d'aller dans cette tribu-là. Quitte à mourir en y arrivant, il a loué un hélicoptère. Il a mis une grosse quantité de Bible. Et il est parti. Donc quand ils ont vu le signe dans le ciel, ils ont vu l'hélicoptère aussi venir en même temps, descendre. Donc quand le monsieur descend, il voit les gens s'approcher de lui. Il se dit, ah, c'est fini, ils vont me tuer là. Mais quand ils s'approchent, ils disent, montre-nous le livre que tu nous as amené. Et ce livre, c'était l'Évangile. Ça, c'est Jésus. Il est venu sauver tous les humains. Et toute la journée, la nuit, ils ont lu l'Évangile. Et c'était le début du réveil dans cette tribu-là. Jésus est pour tout le monde. Mais les mauvais, les méchants, les gens qui veulent s'accaparer les humains de Dieu, la terre de Dieu, ils disent, mais c'est lui le Fils, on ne veut pas de lui. Alors qu'est-ce qu'on fait les imams dans l'islam? Ils ont créé des fausses doctrines, comme quoi la Bible est falsifiée. Comme ça, on va juste citer Jésus comme un prophète, mais pas que les gens aillent vers lui. Les juifs ont payé pour qu'on dise qu'il n'est pas ressuscité. Comme ça, les gens ne doivent pas aller pour lui, à lui. Les gens des ancêtres, ils disent que c'est la religion des blancs. Tout le monde trouve une excuse pour tuer Jésus-Christ. Et certains chrétiens disent que ce n'est pas réaliste ce que Jésus nous demande. Donc chacun trouve une excuse pour ne pas se donner à 100% à Jésus-Christ. Il y en a qui disent, mais il y a la vie quand même. Il y a toutes sortes d'excuses pour tuer Jésus, c'est ça Matthieu 21. Ils ont décidé de le tuer, mais Jésus ne peut pas mourir. Voilà, le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant. Et ceux qui croient en lui vivront la puissance de la résurrection. Et ceux-là qui l'ont rejeté seront confus. C'est ça Matthieu 21. La parabole des vignerons. Ils ont tué le fils. Ils ont dit, ça, c'est le fils. On veut prendre sa place. Les chanteurs chrétiens aujourd'hui veulent prendre sa place, être adorés à sa place. Les pasteurs, ils veulent prendre sa place, être adorés à sa place. Mais un jour, Jésus rétablira tout ça. Nous lisons, nous passons en deuxième partie. Pour finir la première partie, nous disons ceci. Ne t'amuse pas à rejeter le Fils. Maintenant que tu sais que Dieu a envoyé son Fils, saisis-le pour le laisser transformer ta vie et faire de toi aussi un fils et une fille de Dieu. Ne prends pas les choses à la légère. Ne le prends pas à la légère. Ne le tue pas dans ta vie. Laisse-le vivre pleinement. Voilà le conseil que nous donnons. Nous passons en deuxième partie. Quelques conseils aux chrétiens. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Ensuite, nous passerons en Jean 8, 30, 36. Et pour finir, Éphésiens 1, 15 à 23.
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Amen. Jésus dit, tout pouvoir, c'est moi le Fils. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un fils de l'ancien dictateur d'un pays d'Afrique. Alors, il s'était pris une petite copine et un jour, il dit à sa petite copine, écoute, dans une semaine, j'irai te faire voir la Belgique, on va faire un tour en Europe. Mais sa copine lui dit, mais oui, mais j'ai pas de passeport. Tu vois, mais ça, c'est un petit problème. Et après 2 jours, elle avait le passeport. Ensuite, parce qu'il n'y avait qu'une semaine pour tout ça. Non, il n'a même pas donné de passeport. Il lui a dit tout simplement, mais c'est moi le fils du président. Quel est le problème du passeport? Et la copine dit, d'accord, tu es le fils du président de ce pays. Mais en Belgique, pour y aller, il faut un visa. Le fils du président lui dit, c'est moi le visa. vous voyez ce que c'est le comportement d'un fils de président. Il dit, c'est moi le visa. Cette dame-là n'a jamais vu de passeport en son nom, quoi que ce soit. Elle est entrée dans l'avion, elle est descendue en Belgique, elle est entrée en Belgique, on a dit cortège présidentiel congolais, et elle est passée comme ça, puisqu'il y avait le fils du président. Alors, maintenant, pensons, toi chrétien, sache que tu es l'ami du Fils du Créateur. Tu vois le privilège. Jésus, pour nous secouer par rapport à ça, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis. Imagine ce que ça a comme conséquence. Donc toi, quand tu arrives à une porte qu'un démon interdit, tu dis au démon, tu dégages. Ah mais, je suis l'ami du fils du président. Ouais, c'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne toute autorité. C'est moi le fils. Je suis avec vous. Vous pouvez aller partout. Les choses vont s'ouvrir. C'est ça. C'est moi le fils. J'ai reçu tout pouvoir. Il le dit, hein? Parce que normalement, on devait comprendre ça sans qu'il le dise. Mais il le dit quand même. Il ne veut pas de confusion. Il a dit, j'ai tout pouvoir. C'est moi le fils. Maintenant, vous êtes mes amis. Et puis, en plus, je serai avec vous toujours. Tous les jours. Mais dans cette action-là, notre intervention, c'est quoi? Si vraiment nous sommes du Fils, nous devrions exécuter Matthieu 20, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Fais de ton voisinage des disciples. Fais de ta famille des disciples. Tu as reçu toute autorité parce qu'il dit, j'ai toute autorité. Ne vous inquiétez pas de cela, j'ai toute autorité. Et vous, vous êtes mes amis, je suis avec vous partout. Vous êtes mes amis. Appliquez le fait que vous êtes mes amis, vous allez voir les choses s'ouvrir. Dans Jean 14, 12 à 14, il dit, demandez à mon nom. Et il vous sera donné. Parce que je suis le Fils. C'est ça. Nous lisons dans Jean 8, 30 à 36.
Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Amen. Il dit, si le Fils vous libère, vous serez complètement libre. Parce qu'il a reçu toute autorité. Donc lui, il peut dire, lâchez-le. Voilà. Et les gens, quand ils voient son père, ils disent, ben, c'est le fils du PDG, bon, on ne peut rien faire. Ah oui, mais les gens te diront, écoute, c'est le fils du PDG qui vient de parler. C'est leur boîte. On ne peut rien faire. C'est important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Je vous ai raconté une fois, un des présidents des États-Unis, vous savez, à l'époque, le président des États-Unis était un peu beaucoup plus accessible. Il y avait une longue queue des gens qui il recevait des gens. Et parfois, il y avait une grande queue chaque jour pour recevoir des gens. Un jour, les gens étaient bien alignés, en train d'attendre chacun son tour, et il voit un jeune homme d'environ 12 ans, un garçon d'environ 12 ans, venir, il passe tout le monde, il dit même pas bonjour aux autorités qui étaient là, aux policiers, à tout ça, il passe, il ouvre la porte du président, il entre. Mais les gens disent, mais c'est qui ce petit-là qui ose? Il passe tout le monde et il ouvre. On dit, mais c'est le fils du président, c'est tout. C'est son fils. Maintenant, pense que tu es l'ami du Fils de Dieu, du roi des rois. Je vous ai raconté comment j'avais eu le visa, non? Eh bien, les gens, eux, ils faisaient de minuit jusqu'au matin. Ils faisaient la queue. Moi, je suis arrivé à 8 heures du matin sans faire la queue. J'ai dit au portier, vous pouvez dire à madame Intel que c'est le professeur de son fils qui est là. Eh bien, on est venu me chercher. Monsieur, entrez. J'entre, j'arrive là, je vois des colonels, des hauts fonctionnaires qui étaient, eux, ils ne font pas la queue. Ils entrent par une autre porte. Mais dans la salle d'attente, ils sont obligés aussi d'attendre comme tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de colonels, tout ce que vous voulez, qui attendent aussi leur visa. Et moi, j'entre dans cet endroit où il y a toutes ces hautes personnalités. La dame qui était la mère du garçon à qui j'ai donné les cours, et elle me voit et dit, mais Eric, viens! Donc, je passe toutes ces autorités-là. Et je vais te présenter à mon chef. Le chef dit, donnez-moi votre passeport et venez dans tel lieu, vous aurez votre visa. Ça, c'est la réalité d'être dans le Fils. Les portes sont ouvertes. C'est ça. Il faut entrer dans cette dimension-là. Il ne faut plus avoir peur de l'avenir. Du moment que nous sommes avec le Fils, nous n'avons rien à craindre. Voilà. Nous avançons. Nous donnons les ordres aux démons, ils obéissent. Ils sont obligés parce qu'ils voient bien que nous sommes avec le Fils. C'est cela. Comme j'ai souvent dit, tu arrives dans un quartier, tu vois un enfant de 10 ans, un quartier que tu ne connais pas, un enfant de 10 ans qui ose t'affronter, tu fais attention, c'est que s'il ose t'affronter, c'est que quelque part, il y a des yeux qui épient, qui sont tout autour. Tu touches, ces gens-là vont sortir, les costauds vont sortir, ils sont cachés quelque part. Mais nous, c'est pareil. Donc, on arrive là, on affronte un démon, lui-même se dit, ah, derrière là, il y a le Fils. Je ne peux rien faire. Toi, tu te trouves comme une fourmi, hein, mais oui, mais tu as le Fils derrière toi. C'est cela, bien-aimé. Il y aurait beaucoup à dire. Je voudrais clôturer, non plus avec Éphésiens 1, hein, où on dit clairement que Dieu a mis Jésus comme chef de l'Église. C'est pas un pasteur, c'est pas un système, c'est Jésus qui est le chef de tout. C'est Jésus qu'il faut suivre. Jésus, maintenant, il va nous mettre ensemble. Mais lisons l'histoire de Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 3, où vous allez comprendre qu'il était dans cette dimension-là d'être l'ami du Fils. Il s'est permis quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 3.
Acte 3, premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entrait dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.
Amen. Pierre a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais je suis un ami du Fils. Le Fils m'a donné son esprit. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par la richesse financière, c'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils, la connexion avec le Fils, l'amitié avec le Fils. C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Il ne faut pas écouter ces fausses prédications sur l'argent, la prospérité matérielle. Parce que les équipes de football ont de loin de la prospérité matérielle plus que les églises. La vraie gloire de l'église, c'est d'être proche du Fils. Et décider des choses qu'un médecin ne peut pas régler, qu'un président ne peut pas régler. Seuls les fils de Dieu peuvent régler ça. Et Jésus a fait de nous des fils de Dieu comme lui et ses amis en même temps. Double chose, fils de Dieu comme lui et ses amis. Le frère Pierre utilise ça. Il dit, moi je sais qui je suis. Vous savez, l'onction ne vient pas parce que tu as jeûné 40 jours. L'onction vient d'abord de la prise de conscience de qui tu es en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Ça vient de là d'abord. Les prières, le jeûne, tout ça, c'est pour être en communion avec le Seigneur. Mais l'autorité vient de la... Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Tu sauras qui tu es. Pierre a dit, je te donne ce que j'ai, lève-toi et marche. Quelqu'un va dire, mais moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Continue toujours. Ce qui est important, c'est d'agir. Vaut mieux échouer en agissant que réussir à ne rien faire. Donc tu es là les bras croisés. À la fin, on te proclame le premier de classe de ne rien faire. Tu es premier quand même, mais à ne rien faire. Mais vaut mieux prier, déclarer les choses. Tu n'inventes rien, frère. Tu n'inventes rien. Si tu inventais, je te condamnerais le premier. Tu n'inventes pas. C'est le fils, ton ami, qui a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Tu as prié aujourd'hui. Eh bien, ça n'a pas marché. Ce n'est pas ton problème. Tu crois au fils. Tu fais comme Pierre. Toute la nuit, je n'ai pas eu. Mais puisque toi, tu le dis, oh, Jésus dit, parle tout le temps aujourd'hui pour nous. Pierre a essayé de pécher au bon moment. Toi aussi, tu as prié un jour au bon moment, mais tu as l'impression que ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Le lendemain, la parole n'a pas changé. Jésus te dit encore, jette le filet. Tu jettes encore, puisque tu crois dans le Fils. Il ne faut pas croire à un pouvoir que toi, tu as. Il faut croire dans le Fils. Puisque le Fils dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez. Et voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Mais aujourd'hui, tu as prié pour quelqu'un. Ça ne semble pas avoir marché. Déjà, on ne sait pas. Il peut aller chez lui, il peut être guéri. Ce n'est pas ton problème. Ce que tu sais, c'est que le Fils est réel. Et il ne ment pas. Donc demain, tu pries encore pour la chose. Puisque la parole n'a pas changé. C'est cette détermination qui nous manque. Au cas où tu douterais de ce que je dis, Tu veux t'accrocher au fait que la puissance va venir de multiples jeûnes et prières. Lisons ce que Pierre va dire dans la suite, au verset 11.
Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?»
Voilà, ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre piété. Piété, ça veut dire quoi? Le fait d'être un bon religieux. Hein, tu pries beaucoup, tu vis dans la sainteté, c'est ça la piété. Voilà. Il dit, c'est pas ça, hein. Continuons.
Verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous.
Amen. C'est la foi en son nom. Il dit, moi, Pierre, j'ai cru que Jésus a raison. C'est mon attachement à Jésus, ma foi en lui, comme le jour de la pêche miraculeuse. Il avait dit, Seigneur, toute la nuit on n'a pas pêché, mais selon ta parole, je jetterai le filet. C'est cette même foi qui fait que j'ai dit à cet homme, lève-toi et marche. Ce n'est pas parce que je suis spécial, c'est parce que je me suis attaché au Fils de Dieu, qui a toute autorité. Bien-aimé, avec une pareille autorité, on ne peut pas rester statique. On ne peut pas rester statique. Mais je laisse le soin au Saint-Esprit de continuer le travail dans la vie de chaque personne. Mais aujourd'hui, j'ai voulu partager le Fils. J'aime beaucoup le Fils. Voilà. Nous allons nous lever et chanter sans Jésus. Ciel est voilé. Seigneur, merci. Papa, de t'être révélé à nous en donnant ton propre fils, de sorte que les choses sont claires et tu as fait mieux. Tu l'as laissé mourir à la croix pour nous et prendre nos péchés. Et il est ressuscité le troisième jour, montrant que tout a fonctionné. Et aujourd'hui, il est assis à ta droite et il nous a donné pleine autorité de faire les choses en son nom désormais. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons apprécier d'être l'ami du Fils avant de nous laisser déstabiliser par les choses que nous n'avons pas reçues. Au lieu de nous laisser déstabiliser par les prétendus échecs, nous voulons apprécier d'être les amis du Fils et désormais ne fonctionner qu'avec lui parce qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons fonctionner avec toi, travailler avec toi, car c'est de toi que viennent les sources de la vie. Seigneur, nous voulons fonctionner chaque jour. Oh Jésus, expérimenter le fait que tu es notre ami. Ne pas chercher ailleurs, car tout pouvoir t'a été donné. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens proclamer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies pour nous accompagner, pour nous accompagner. L'Esprit de Jésus qui a accompagné Philippe à Samarie, qui a fait qu'il a changé toute une ville à lui tout seul, Seigneur. Je prie que l'Esprit de Jésus-Christ se saisisse de nous, se saisisse de ceux qui ont saisi cette parole, qui ont compris leur rôle d'amis du Fils, qui ont compris désormais leur rôle de fils de Dieu. Seigneur, que ton Esprit fasse la différence et nous agite comme il a agité Samson en son temps. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.